Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant le salut. Nous arrivons à l'étude numéro 17. Et c'est une étude comparative de la justification. Nous devons commencer par établir la gravité et l'importance de la doctrine de la justification parce qu'elle n'est pas toujours appréciée aujourd'hui. Et je crois que j'ai oublié de dire que c'est l'étude numéro 17. Donc, un article exemplaire dans The Times disait que la théologie de la justification n'est pas plus longtemps une issue centrale dans aucune église. Ceci donnait à entendre qu'il allait être maintenant possible de progresser avec d'autres choses que cette matière. Cette disposition d'esprit n'est pas rare aujourd'hui. Cela demeure dans un contraste marqué au sentiment de Luther quand il disait que la clause de justification par la foi est la clause d'une église qui tient ou qui tombe, tout simplement. Cette doctrine a été considérée par toutes les églises de la Réforme comme un des deux principes basiques et d'autorité de la théologie de la Réforme. L'autorité des Saintes Écritures fut le principe officiel de la théologie déterminant sa méthode et assurant la pierre, on peut dire la pierre de touche, de la vérité. La justification par la foi fut donc considérée comme l'essence du message de l'Évangile. L'expression la plus remplie de l'Évangile que la Sainte Bible contient se trouve dans l'Épître aux Romains, qui fut regardée comme le pivot de la compréhension et de l'interprétation des Saintes Écritures. La justification par la foi n'était pas qu'une doctrine parmi beaucoup, mais c'était le principe herméneutique par lequel les Saintes Écritures en entier devaient être comprises et interprétées. Et ceci n'était pas quelque chose de forcé, on peut dire, et d'arbitraire, imposé par exemple d'après les Saintes Écritures sans origine. Mais cela se trouvait dans la façon selon laquelle l'apôtre Paul lui-même prenait en main et interprétait le Vieux Testament à la lumière de l'Évangile qui lui avait été révélé par Jésus-Christ. Actuellement, tout ceci contraste vivement avec la base dans laquelle la doctrine est tenue par beaucoup aujourd'hui dans l'Église et en fait avec la voie dans laquelle elle est maintenue. Si nous ne donnons pas à la justification par la foi la place, la gravité et l'importance qui lui fut accordée par les réformateurs et en fait par l'apôtre lui-même, alors nous serons entraînés à obtenir des choses pires. Et nous serons sur le chemin de concéder beaucoup de choses contenues dans le récit qui tient compte de la justification comme simplement et tout bonnement un aspect parmi beaucoup du salut en général. Mais la doctrine de la justification par la foi, elle doit avoir une place fondamentale non pas seulement à cause de sa place dans le firmament théologique, mais aussi parce que, d'après l'expérience, cela doit être le centre de notre intimité avec Dieu. Je suis perplexe au sujet de ces chrétiens qui disent « Oui, 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 nous comprenons l'enseignement sur la justification par la foi, mais maintenant, nous voulons passer à d'autres choses. » Cela m'indique qu'ils ne l'ont pas comprise. La justification par la foi, ce n'est pas une échelle que je grimpe pour atteindre là où je veux être et alors pouvoir la repousser simplement d'un coup de pied. Non, non, non. L'image juste n'est pas celle d'une ceinture de sauvetage qui me maintient à flot à chaque instant et que je peux enlever sans me noyer. La justification par la foi, ce n'est pas quelque chose purement et simplement pour le commencement de la vie chrétienne, après laquelle nous passons à d'autres choses tout simplement. Car le juste, est-il dit, le juste vivra par la foi. Qu'est-ce que la vie de la foi, si ce n'est simul peccatore et justus, pour un seul et en même temps plein de péché en moi-même, juste dans Jésus-Christ, deuil en moi-même, faisons le deuil en soi-même, et réjouissance dans notre Seigneur bien-aimé. Chaque instant de ma vie, je compte sur la justice de Christ pour me garder en existence devant Dieu. La vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est donné pour moi. Galatiens, chapitre 2, verset 20. La justification par la foi est centrale pour la vie et l'expérience chrétienne tout entière. Aussi bien comprise, la justification par la foi est d'une importance à la fois essentielle et durable pour toute l'Église et pour l'individu chrétien. Et si nous perdons la vue de ce fait ou que nous manquons de l'approprier, la doctrine de la justification est déjà mise en danger. Justifier dans les Saintes Écritures, cela signifie déclarer ou prononcer juste. Cela ne signifie pas de rendre juste. Cela fut une sérieuse erreur dans la Vulgate que le terme ait été traduit par le mot latin « justificare », qui signifie « rendre juste ». Dans la Sainte Bible, « justifier » est un terme réglé par la loi associée avec la cour légale. Le prisonnier se tient debout devant la cour, la preuve est faite et le juge prononce le verdict. En prononçant le verdict, le juge ne fait pas le caractère et la condition morale ou immorale de celui qui se défend. Il ne fait seulement que le déclarer juste ou coupable, c'est tout. Ceci est clairement montré dans Deutéronome au chapitre 25 et verset 1, etc. Donc, lorsque des hommes ayant entre eux une querelle, lorsque ces hommes se présenteront en justice pour être jugés, que les juges puissent les juger, on absoudra l'innocent, évidemment, et l'on condamnera le coupable. En quelque lieu que ce soit, le terme justifié est utilisé en référence à notre créance en Dieu. Il signifie déclarer une personne juste. Il ne signifie pas de rendre juste. Dieu nous justifie librement par sa grâce. Romains chapitre 3, verset 24. En conséquence, la justification n'a rien à faire avec la bonté de notre part ou avec notre condition morale et spirituelle. Dieu, c'est lui qui justifie, déclaré juste, l'impie. Il déclare juste l'impie, selon Romains chapitre 4, verset 5. Le motif fondamental, ou le motif de fondement, sur lequel il fait cela est clairement non pas l'injustice du pécheur. L'injustice du pécheur pour lequel il n'a rien, mais sur le fondement de cette injustice que Dieu lui-même a révélée et préparée en Jésus-Christ. Romains, chapitre 3, versets 21 et 22. Par la foi, le croyant est en Christ, et la parfaite justice de Christ lui est comptée. Romains 4, verset 6 jusqu'au verset 8. Notez soigneusement ces indications bibliques pour que vous puissiez les recontrôler, pas seulement cela, mais de pouvoir les relire. Tous parmi eux peuvent être récapitulés dans ces mots de ce cher apôtre Paul, extraits de, je crois, Philippiens, chapitre 3, verset 9. Son ambition était d'être trouvé en Christ, non pas ayant ma propre justice, qui est de la loi, mais celle qui est par la foi de Christ, la justice qui est de Dieu, et cela par la foi. Ce fut cette doctrine biblique et son pouvoir libérateur conséquent que les réformateurs vinrent à comprendre. Ces réformateurs sont venus à comprendre et à apprendre tout cela quand ils ont atteint la signification de l'enseignement de l'apôtre Paul aux Romains. Cela les a rendus libres du nouveau légalisme qui avait été dressé par l'Église de Rome. L'Église de Rome avait réintroduit la loi envers la justification. Ceci arriva principalement dans deux voies. Premièrement, Jérôme avait, en traduisant la Bible en latin, usé du terme « justificare » pour traduire le mot grec « dikraion », « justifié ». Ceci fut évidemment une erreur majeure, car par cela, déclarer juste a été tourné en rendre juste, ce qui n'est pas pareil. Et l'usage universel de la Vulgate dans l'Église de ce temps mena à la disparition du concept biblique de justification et à son remplacement par la notion que être justifié est un processus dans lequel l'individu devient ou est rendu juste ou injuste en lui-même, moralement et spirituellement. Le second facteur contribuant à l'introduction de la loi envers la justification a été l'adoption de la philosophie d'Aristote par l'Église romaine au Moyen Âge comme charpente de sa théologie. Aristote enseignait que l'homme juste ou injuste était l'homme l'homme qui faisait des bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres étaient ce qui le faisait juste ou injuste. Une habitude ou une disposition de bonté ou de justice se construisait donc et s'établissait en lui par la pratique des bonnes œuvres. Aussi l'Église, cherchant une synthèse de la révélation et de la philosophie, enseignait que la justice ou la justification était le résultat des bonnes œuvres accomplies et réalisées par l'inspiration de la grâce. Ainsi donc, la combinaison d'une mauvaise traduction des Saintes Écritures, rassemblée avec l'adoption d'une philosophie qui ne commençait pas à partir des présuppositions de l'Écriture sainte, s'est résolue en une vue complètement erronée de la justification qui mettait hors de vue les enseignements de la Sainte Bible sur le sujet. Il y a là deux avertissements pour nous, des traductions mauvaises ou peu précises de la Sainte Bible sont donc un sérieux danger. Nous devons être très attentifs à voir que la version utilisée dans l'Église est une version qui représente fidèlement l'enseignement de l'Écriture sainte. Aucune traduction ne sera faite. Secondement, nous devons être spécialement sur nos gardes contre les philosophies de cet âge qui semblent à certains si attractives comme véhicule de la communication de l'Évangile, et je pense à l'existentialisme, le marxisme et d'autres similaires, mais qui résultent de la distorsion et du manque de représentation de l'Évangile apportant la vérité de l'Évangile dans la captivité des pensées des hommes. Nous devons donc toujours être au courant des antithèses entre la sagesse imparfaite humaine et la révélation divine. La sagesse du monde est folie, est-il dit selon Dieu. Ce fut ensuite vers la glorieuse liberté de l'enseignement de la justification de l'Écriture sainte que sont venus les réformateurs, et il est important de se rappeler comment cela est venu, de sorte que nous pouvons voir comment il, sous Dieu, par l'Esprit Saint, ont rétabli la doctrine biblique dans les églises de la Réforme. Luther fut seulement graduellement libéré de la vue erronée de la justification qui prévalait universellement à cette époque-là, et nous pouvons suivre le développement des pensées de Luther ou de Luther en cette matière. Et c'est pourquoi, oui, c'est pourquoi il est dangereux de conclure que à chaque fois, dans n'importe laquelle des œuvres de Luther, nous trouverons une exposition claire de toute la doctrine biblique de la justification. Et c'est pourquoi certains écrivains catholiques romains se sont assujettis au jeûne Luther, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent montrer que Luther enseignait une doctrine de la justification qui est conforme à leur position. Il y a eu trois phases par lesquelles il est passé. Premièrement, il comprend la justification en termes de pure et simple action humaine, de droiture, action de la droiture, de la loi accomplie par l'homme. Il fut ensuite libéré de cette vue quand, en étudiant l'Épître aux Romains en ce qui concerne ses chapitres de 1515 et 1516, il en arriva à voir que la droiture de Dieu dont saint Paul parle non seulement juge les pécheurs, mais aussi les sauver. Il fait donc appel à saint Augustin. La droiture de Dieu est ce par quoi le pécheur est rendu juste, comme la sagesse de Dieu est ce par quoi nous sommes faits sages, etc. Mais la droiture de laquelle Luther parle ici, dans cette seconde phase de sa compréhension, est une droiture inculquée. Dieu fait le pécheur justifié par l'usage de la grâce qui le rend capable de faire de bonnes œuvres et ainsi de recevoir un jugement favorable du juste juge. Mais ceci est cependant la droiture propre à l'homme, même si c'est l'œuvre de la grâce de Dieu. Le terrain de la justification est encore une droiture à l'intérieur de l'homme et qui appartient à l'homme. Or, une telle justification est toujours problématique et incomplète, car vous ne pourrez jamais être sûr que le compte des œuvres a été suffisant pour obtenir un verdict favorable. Ceci est connu comme étant la période catholique du développement de Luther, car cela reflète la doctrine catholique romaine de la justification comme elle est devenue codifiée dans les décrets du Concile de Trente. Mais il a dû encore y avoir un développement plus lointain de la pensée et de l'expérience de Luther. Comme il s'absorbait dans son petit cabinet de travail dans la tour du monastère de Wittenberg, il vint à voir, et cela était avec la force vraiment d'une révélation, que le Saint-Esprit me l'a révélé, et que la droiture par laquelle nous sommes justifiés, selon Romains chapitre 3, n'est pas du tout notre droiture, en aucun sens. Ce n'est pas quelque chose d'opéré dans l'homme, même par la grâce, mais c'est une droiture passive. C'est la droiture de substitution de Christ, créditée à tous ceux qui croient. Ce n'est donc en aucun ou à aucune sorte un travail, mais c'est un don gratuit, non pas accordé, mais imputé, non pas inhérent, mais étranger. La droiture étrangère de Christ, qui n'est jamais celle du pécheur, mais qui est toujours celle de Christ, encore maintenant, comptée à tous ceux qui croient. Ceci, c'est donc la doctrine parfaite de la justification. Ce fut la doctrine qui rendit Luther libre. Ceci est la doctrine qui fut condamnée au Concile de Trente et que j'ose dire qu'elle ne sera jamais acceptée par l'Église catholique romaine. L'expérience des réformateurs de la doctrine de justification par la foi a établi un grand nombre de choses qui sont fondamentales à sa propre appréciation. Premièrement, nous avons la profondeur du péché et de l'iniquité humaine. Aussi longtemps que les hommes ont pensé que par les œuvres ils pouvaient être agréables à Dieu et satisfaire les demandes de sa droiture, le péché fut banalisé et son étendue et sa profondeur non comprise ou reconnue. Les réformateurs sont venus à comprendre que la vue biblique du péché était beaucoup plus sérieuse que ça. Ce fut donc reconnu comme un désordre radical de toute la nature humaine en affectant chaque part et qui est ce que l'on entend par totale dépravation. Luther disait du pape et des évêques: par le péché mortel, ils n'ont pas compris que les actions extérieures commises contre la loi, comme le meurtre, le vol et toutes choses pareilles, ils n'ont pas pu voir que l'ignorance, la haine et le mépris de Dieu sont aussi des péchés mortels, et que la chair ne peut penser, parler et ne faire autre chose que ce qui est à la fois démoniaque et contre Dieu. S'ils avaient vu ces sources d'ennui solidement enracinées dans la nature de l'homme, ils n'auraient jamais osé imaginer des rêves aussi exécrables et impudents touchant le désert de la conformité et du mérite. Lisez l'Épître aux Galatiens. Deuxièmement, ils en arrivèrent à comprendre exactement la nature et le but de la loi de Dieu. On ne pense pas que ce soit une règle pour les pécheurs à garder et ainsi, par leur supposée conformité à cela, de se rendre soi-même juste devant Dieu. Cela doit être, comme l'apôtre Paul a dit, un maître d'école pour nous frapper de sorte à nous porter vers Christ. Moïse se sert du fléau et du châtiment de la loi pour terrifier les consciences et révéler à l'homme la désespérance et l'impuissance de sa condition hors du Christ et de l'Évangile. Car il est impossible, dit Luther, en raison de la nature de l'homme, d'accomplir la loi, oui, même pour ceux qui sont justifiés et qui ont le Saint-Esprit. Si le justifié ne peut faire ceci, comment l'inique pourrait-il le faire, lui qui n'a pas le Saint-Esprit? Épître aux Galatiens. Certains degrés de rectitude extérieure peuvent être possibles, mais cela ne justifie pas devant Dieu, quelque bon que cela puisse paraître devant les hommes, parce que la nature spirituelle de la loi pénètre les pensées et se propose au cœur, et nos cœurs sont, écoutez bien, sont mauvais avec Dieu, de sorte que nous ne pouvons lui plaire. Là, je parle aussi, évidemment, pour ce qui me concerne. Bien entendu, une juste compréhension du but et de la place de la loi est évidemment d'une importance fondamentale. Ceux qui pensent que la fonction de la loi est de justifier, d'obscurcir et de bouleverser toute chose, eh bien, la loi est inscrite où le péché devrait abonder, Je répète, la loi est inscrite là où le péché devrait abonder. Romains chapitre 5, verset 20. Et comme Luther le fait valoir, c'est un bon ministère en vérité. Troisièmement, ils ont obtenu une juste compréhension de la foi. C'est la nature de la foi de croire en Christ et de se reposer entièrement sur lui pour le salut. Luther disait, la vérité de l'Évangile est que notre droiture, elle vient par la foi seule, sans les œuvres de la loi. La corruption ou fausseté de l'Évangile est que nous sommes justifiés par la foi, mais non pas sans les œuvres de la loi. Épître aux Galatiens. L'Église de Rome enseignait que la foi jouait un rôle dans la justification, mais n'était pas suffisante à elle seule. La foi a été conçue comme un assentiment aux enseignements de l'Église, assentiment de l'esprit à une certaine forme de vérité. Si cela était ainsi, bien sûr, la foi aurait vraiment besoin d'avoir ajouté à celle-ci l'amour et l'obéissance pour créer la droiture intime que Rome a indiqué avoir été le fondement de la justification. La compréhension de la foi des réformateurs dérivés des Saintes Écritures a été radicalement différente. Ce n'était pas du tout un travail, c'était une foi qui reconnaissait sa complète indignité et se jetait elle-même complètement sur Christ et sur sa parfaite droiture. La foi sauve seulement si elle repose entièrement sur Christ. La foi, étant dans ses propres fonctions, n'a pas d'autres objets que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Épître aux Galatiens. La foi, c'est l'anneau qui entoure le précieux joyau qui est Jésus-Christ. Aussi, la foi, pour amadouer, rejette tout autre moyen d'atteindre la droiture devant Dieu, que ce soit le travail, que ce soit les œuvres de la charité, que ce soit l'amour de son prochain, le service de Dieu, les prières, le jeûne, le don de l'aumône ou quoi que ce soit. Nous ne nions pas, disait Luther, que les fidèles doivent suivre l'exemple de Christ et œuvrer pour le bien. Mais nous disons qu'ils ne sont pas justifiés devant Dieu de cette façon-là. En cette matière, nous ne dressons rien d'autre devant nos yeux que Jésus-Christ mourant pour nos péchés et ressuscitant pour notre droiture. Et c'est lui que nous devons comprendre par la foi comme étant un don, non comme étant un exemple. Épître aux Galatiens. Quatrièmement, ils ont obtenu une juste compréhension de la grâce. La grâce pour l'Église de Rome, était devenue une substance que l'on inculque, par laquelle le récipient devenait capable d'œuvrer pour le bien. Cette inspiration de la grâce prenait place au baptême et était maintenue par les autres sacrements. Ainsi donc, l'individu devait donner un résultat précis par sa justification et progresser en elle. Rome œuvrait sur la théorie citée plus tôt que les œuvres justes font l'homme juste. Mais les réformateurs, en accord avec l'Écriture sainte, se rejetaient sur l'autre fin, c'est-à-dire la justification est quelque chose de déjà accompli et conféré aux croyants par la grâce qui n'est pas une substance inculquée, mais un libre bienfait et faveur de Dieu qu'il nous montre par l'amour de Jésus-Christ. Le pécheur ainsi justifié est régénéré par l'Esprit Saint, et comme homme régénéré, il fait ses œuvres qui déclarent son nouveau statut devant Dieu et la nouvelle nature qu'il a reçue. Ainsi, dans toutes ses voies, l'image biblique de la justification a commencé à émerger et à se rassembler chaque part du vocabulaire et de l'enseignement de l'Écriture sainte, trouvant sa véritable place et concordant avec le message entier de l'Évangile. Le juste sens du mot justification fut central à ceci, mais il ne se tournait pas purement et simplement en une étroite définition étymologique, mais il comprenait tous les concepts de péché, la loi, la grâce, la droiture, l'imputation, et ainsi de suite. C'était donc un système, un corps de la divinité. De son entière émergea donc une signification, et on peut dire un message qui fut vibrant et qui fut dynamique. C'est une libération, un libérateur vivifiant et diamétralement opposé au légalisme anéantisseur du fameux système romain. Du système romain, on peut dire qu'il a graduellement grandi avec les siècles, et pendant qu'il retenait, on peut dire, une façade des termes chrétiens, avait donc créé ainsi une vaste, asservissante institution d'hommes faite uniquement par la religion. Ce qui arriva immédiatement comme conséquence à tout ceci fut que l'Église de Rome déploya toutes ses énergies à étouffer l'Évangile qui en était venu à la lumière, et à cette fin, le Concile de Trente fut convoqué et mis en circulation ses arrêts et ses canons contre la doctrine de la justification par la foi seule. Les canons qui suivirent les déclarations ou les décrets rendaient clair par une série d'anathèmes contre l'enseignement des réformateurs ce que la doctrine de l'Église de Rome n'aurait pas voulu tolérer plus longtemps. Prenons le canon numéro, on appellera ça canon numéro 9. Là, il est dit que si quelqu'un dit que par la foi seule, l'impie est justifié, qu'il soit tout simplement anathème. Canon 11. Si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés soit par la seule imputation de la droiture de Christ ou par la seule rémission des péchés à l'exclusion de la grâce et de la charité qui est répandu dans leur cœur par le Saint-Esprit et leur est inhérent, ou même que la grâce par laquelle nous sommes justifiés est seulement la faveur de Dieu, qu'il soit anathème. Canon 12. Si quelqu'un dit que la foi justificatrice n'est rien d'autre que la confiance en la miséricorde divine qui remet les péchés pour l'amour de Christ, ou que c'est cette confiance seule par laquelle nous sommes justifiés, qu'il soit anathème. Canon 13. Si quelqu'un dit que les commandements de Dieu sont même pour un homme qui est justifié et établi dans la grâce impossible à suivre, qu'il soit anathème. Canon 24. Si quelqu'un dit que la justice reçue n'est pas préservée et aussi augmentée à la vue de Dieu grâce aux bonnes œuvres, mais que les dites bonnes œuvres sont purement et simplement les fruits et les signes de la justification reçue, mais non une cause de l'augmentation de cela, qu'il soit anathème. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'ailleurs, mais toutes ces citations sont assez pour montrer dans quelle mesure l'enseignement de la Bible et des réformateurs est complètement réfuté par le Concile de Trente. Ce que nous avons sans doute est une série de positions diamétricalement opposées des réformateurs et du Concile de Trente. Ce que le premier affirmait, celui-là le niait. Il n'y avait aucune base commune entre ces deux. Mais on n'a pas voulu de ceux qui ont tenté de réconcilier les irréconciliables et rendre carré le cercle et de montrer que deux et deux s'accordent à leur estimation peu, en fait, on ne sait jamais, faire cinq. Quelques-uns ont essayé de montrer que réellement le Concile de Trente et les réformateurs disaient la même chose, mais de manière totalement différente. D'autres ont essayé une position intermédiaire dans laquelle ils ont tenté d'argumenter que les deux positions étaient mauvaises dans certaines mesures et que la vérité reposait quelque part au centre. Chers auditeurs et chères auditrices, il y aurait encore beaucoup, beaucoup à dire, mais nous arrêterons ici et je pense que vous avez suffisamment compris un peu le thème délicat de la justification. Veuillez, si possible, réécouter calmement cette étude pour mieux l'assimiler et de pouvoir mieux comprendre le sens profond de la justification. Nous allons maintenant prier ensemble. Dieu éternel et miséricordieux, vers toi montent nos louanges et nous te rendons grâce d'avoir accordé à ce monde périssable la révélation de ton royaume éternel, la révélation de ton règne sur tous ceux qui écoutent ta voix et qui accomplissent ta volonté. Nous te bénissons d'avoir fondé et maintenu pour le service de ton royaume par l'œuvre de Jésus-Christ et du Saint-Esprit l'Église chrétienne, qu'elle soit bénie pour lui avoir confié la mission d'apporter à tous les peuples de la terre ta véritable connaissance et ton merveilleux salut. Donne à toute ta chrétienté, et en particulier à nous-mêmes la joie et la force de prophétiser ta victoire et d'annoncer ton règne et de travailler à ton avènement parmi tous les peuples qui ne connaissent pas l'évangile de Christ. C'est ainsi que les enfants des hommes, consolés et réjouis, pourront reconnaître en toi leur Dieu et leur Père et trouver un refuge dans la vie comme dans la mort. Accorde-nous enfin la certitude radieuse que le jour viendra où l'Évangile triomphera malgré notre faiblesse et où ton règne s'établira dans tous les cœurs sur la terre comme au ciel. Amen. Et chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir, très chers amis.